Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté une histoire tirée des aventures professionnelles du docteur Philippe Boxo, qui est un médecin légiste en Belgique. Histoire tirée de son livre « Les morts ont la parole » aux éditions Kens. Et c'est avec lui, bien sûr, que je la débriefe. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas pu dire si elle était déjà morte quand il l'a jetée au cochon, comme le dit le fermier, ou si elle était vivante quand il l'a mis dans la porcherie. Mais il y a quand même eu une suite judiciaire. Vous le dites pas, ça, rassurez-moi.
Il y a une suite judiciaire, oui. En fait, à partir du moment où le bonhomme a été reconnu comme étant dément, en accès de démence au moment où les faits ont été commis, d'office, il n'est plus condamnable. C'est d'accord. Une circonstance d'excuse. Et il a donc été placé en internement psychiatrique, qui n'a pas duré longtemps, le temps qu'il descende de cette bouffée délirante, pour ensuite recouvrer une vie normale. Mais dans la mesure où on a estimé qu'il n'était pas en état de conscience parfaite au moment où il trouve sa femme morte, hein, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est ce que les médecins ont conclu, il n'était pas condamnable.
Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné. Pour examiner le contenu de l'estomac de ce cochon, intuitivement, moi j'aurais fait appel à un vétérinaire. Oui. Est-ce qu'il est normal que ce soit un médecin légiste ?
Non, pas tout à fait. Mais le procureur m'a dit, mais t'es quand même bien capable d'ouvrir l'estomac d'un cochon, puisque c'est la seule chose qu'il y avait à faire.
C'est l'incision, quoi.
C'est l'incision. L'incision, les chercheurs dans l'estomac, c'est pas une autopsie du cochon. Il se serait agi de faire une autopsie du cochon, c'est clair, je suis pas compétent, et qu'il aurait fallu alors un vétérinaire légiste, ça existe.
J'étais surpris d'apprendre que le cochon qui se nourrit de gland, nous dit-on, enfin, entre autres, est carnivore.
Il est omnivore. Il mange de tout. Et il n'est pas rare de voir, effectivement, dans les forêts, par exemple, des cadavres qui ont été mangés par les sangliers. Et il les mange en dispersant les ossements. Ce qui veut dire qu'on retrouve, j'ai eu le cas d'un gars dont on a retrouvé la tête bien plus tard. Et il était à plus de 50 mètres du corps. Elle avait juste été déplacée par les sangliers, qui ne l'avaient pas détruite, dans ce cas-ci, qui avaient mangé tout ce qu'il y avait à manger de tissu.
Et laissé les ossements.
Et ils avaient laissé les ossements. Pas totalement intact, parce qu'on voit quand même qu'il y a des griffes de dents qui se fondent sur l'os, mais qui ne l'altèrent pas profondément.
Vous avez entendu parler, je suppose, de l'histoire du petit Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi, dont on a retrouvé plusieurs mois plus tard le crâne, puis quelques ossements dans une forêt. Donc l'hypothèse existe qu'il était dévoré par des sangliers et les morceaux de son corps, au fond, répartis alentour. Parce que le sanglier, il mange pas le cadavre sur place.
Il se déplace pour ne pas être gêné par ses congénères et garder ce qu'il a acquis pour lui.
Jusqu'à combien de temps est-ce qu'on peut retrouver des restes identifiables dans l'estomac d'un cochon?
Mais ça va très vite, en fait. C'est pour ça que je l'avais fait abattre. C'est parce que une fois que vous le faites abattre, vous n'avez plus de sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. C'est ce que l'estomac sécrète chez l'humain comme chez le mammifère.
Et ça dissout, ça?
Ça dissout. Ça dissout très très bien, très très vite. Et il faut, en grosso modo, 2 heures pour qu'un estomac soit vide. Donc, il fallait aller vite pour être sûr de trouver encore des morceaux, non pas nécessairement identifiables, mais sur lesquels on pouvait encore travailler.
Est-ce que vous n'avez pas peur que ça inspire des criminels?
Eh bien non, parce que ça existe dans d'autres films. Et dans des films, je pense à Rambo, le dernier de Rambo, vous voyez une scène comme ça où quelqu'un de vivant est en train de se faire bouffer par un cochon. Dans un autre film qui s'appelle Hannibal, vous voyez aussi que l'on jette un corps au cochon, de la même manière que dans le précédent film. Donc c'est quelque chose qui est déjà largement répandu, largement connu.
Mais non, j'ai raconté hein,
oui,
des histoires comme ça.
Ouais.
Ça marche pas toujours.
Ça marche pas toujours.
Des fois, il reste un petit morceau, il reste un vêtement, il reste...
Tout à fait. Donc ça marche pas toujours, mais quand ça marche, eh bien, il s'agit d'arriver vite pour pouvoir encore tirer des conclusions.
En fin d'histoire, donc vous évoquez d'autres animaux, dont le sanglier, dont on a parlé, le chien. Alors le chien, c'est rassurant, il ne nous mordrait que pour nous réveiller.
Oui, pour réveiller. Et aussi à cause, disent les vétérinaires, d'une angoisse par rapport à cette odeur qu'un corps dégage, qui est l'odeur de mort, hein, par rapport au maître. Donc il serait dans une situation d'angoisse, sentant quelque chose qui se passe et qui ne va pas correctement par rapport à son maître, tenter de le réveiller.
Le chat, Ça, j'étais surpris.
Oui.
Le chat peut dévorer les oreilles et le nez.
Il s'attaque au cartilage. J'ai souvent constaté ça. Rarement autre chose. Chaque fois que je vois un chat qui a commencé à consommer, entre guillemets, parce qu'il consomme pas vraiment son maître, c'est des zones cartilagineuses comme le nez et les oreilles. Des zones un peu saillantes qu'il est facile de saisir dans sa petite bouche aussi. Hein. Il n'a pas une grande gueule qui lui permettrait d'attraper la mâchoire facilement. Donc, il s'attaque à des structures qui lui sont accessibles.
Le procureur de la République vous demande d'aller sur place. C'est systématique.
Oui. Et on aime bien ça, que ce soit systématique.
C'est systématique en Belgique.
En Belgique, ça l'est. En France aussi. Ça s'appelle en France. Nous, on parle de descente. Eux, ils parlent de levée de corps en France. Mais c'est la même chose. On va voir sur place. Et c'est très important d'aller voir sur place. Il faut s'imprégner de l'ambiance, s'imprégner des lieux, et peut-être même remarquer dans l'environnement des choses qu'on n'aurait pas remarquées si on n'y était pas allé, forcément.
Donc, systématiquement, on se déplace
systématiquement
sur les lieux.
Oui.
Il n'y a jamais de cadavre qui vous arrive dans une housse en plastique que vous n'avez pas vu in situ.
Ça peut se faire. Ça, c'est la décision du procureur. Si le procureur décide qu'on va m'amener le cadavre à l'Institut de médecine légale, ben c'est lui qui décide. Je ne peux pas aller contre son avis.
Vous ne pouvez pas lui dire. Non,
j'ai le
procureur,
devoir,
je vais y aller.
J'ai le devoir de lui dire, écoutez, c'est mieux que je le vois sur place, mais il a la possibilité, lui, parce que c'est lui le patron, de me dire non, il n'y a pas question, je vous l'amène.
Mais ça implique beaucoup de temps, ça.
Ah oui, énormément.
Aller sur place, je ne sais pas comment c'est en Belgique, en France, maintenant la médecine légale se fait au stade régional. Donc le type, il est à Strasbourg. S'il faut qu'il aille au fin fond de la Lorraine, il en a pour 2 heures de route.
Chez nous aussi, puisque la médecine légale, chez nous, elle n'est pas régionale, mais elle est plutôt provinciale. C'est par province, et donc je couvre la province de Liège et du Luxembourg. Et le diamètre de la province fait quelque chose comme 150 kilomètres.
Et vous y allez seul?
Oui.
Jamais avec quelqu'un?
Parfois avec des stagiaires. Stagiaires en médecine, stagiaires en criminologie, qui nous accompagnent pour découvrir le métier.
L'autopsie, vous n'êtes pas seul?
Jamais, ça je ne veux pas. Et le protocole européen, d'ailleurs, demande à ce qu'on soit deux, aussi bien en France qu'en Belgique, c'est européen.
Deux médecins?
Deux médecins légistes, pour faire l'autopsie. Pourquoi? Simplement parce que je pense qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Ça, c'est une première chose. Et en autopsie, il vaut mieux ne rien oublier, par exemple, Donc, on y pense à deux plutôt que d'y penser tout seul. Et puis, imaginez qu'il y ait une influence qui doit s'exercer sur le médecin, qui puisse s'exercer sur le médecin de la part d'un tiers qui serait à la cause et qui serait peut-être l'auteur. C'est plus difficile d'influer sur deux médecins que d'influer sur un seul. Donc, plus on est garant d'une certaine neutralité par rapport à l'objet étudié.
Moi, j'ai assisté à des autopsies. Il y a aussi un garçon de laboratoire ou une fille de laboratoire.
Oui. Il y a aussi des gens qui viennent, ce sont les gens de laboratoire, comme vous dites, essentiellement pour relever des empreintes digitales, prendre des photos du corps en toutes les phases de l'autopsie, et aussi examiner les vêtements et les prélever, les reprendre pour un examen ultérieur. Ça, c'est ce qu'ils font chez nous, oui.
Et il y a un gendarme ou un policier
qui fait partie de l'enquête, toujours, de façon à prendre des notes. Alors, ce qu'on espère, c'est que les magistrats vont revenir. Ils venaient avant, le procureur de la République, le juge d'instruction, le greffier du juge d'instruction était là, et c'était l'occasion de leur montrer, des visu, les lésions qu'on avait observées. Il n'y a rien à faire. Le fait de voir les choses les rend beaucoup plus réelles, et permet, je pense, d'avoir une meilleure approche du dossier. C'est pour ça que je regrette aujourd'hui que les magistrats ne soient plus là, parce que je trouve que c'est une perte.
C'est une perte de temps aussi pour eux.
C'est une perte de temps, oui.
Dans des métiers où ils sont souvent débordés. J'ai tiré cette histoire du livre du docteur Boxo aux éditions Keynes. Les morts ont la parole.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.